Dégenrer, l'émission pour déranger.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir sur Dégenré, nous allons parler de sexisme et médias. Alors, on voulait parler de ça parce que aujourd'hui, dans la société française, on est censé avoir les mêmes droits vis-à-vis de la justice, on parle d'une politique paritaire, etc. Et pourtant, on constate qu'il y a encore un gros maintien des inégalités hommes-femmes du point de vue des salaires, du point de vue du travail, des violences, enfin. Tout ça. Et on se demandait pourquoi, comment ça se fait que ces inégalités, ben, elles se perpétuent, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ces inégalités. Et on se disait, c'est notamment par le maintien d'une forte idéologie sexiste. Et selon notre avis, les masses médias jouent un rôle central dans la perpétuation, voire l'aggravation du sexisme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va surtout vous parler dans les masses médias de la presse, des écrits, des journaux, des quotidiens, des livres, mais on pourrait parler
de la télé, de la presse jeunesse,
de la radio. La radio a un haut lieu de diffusion sexiste à mon avis. Il faut écouter Énergie et Skyrock par exemple, c'est ou Fun Radio ou toutes ces radios là, c'est abominable.
Avec des voix chaudes.
Et sexy, sympa, enfin bon, vraiment le rôle des filles en animatrice c'est affreux quoi, ou même toutes les radios où, où juste il n'y a que des animateurs, enfin bon, moi je trouve, mais bon, on ne va pas parler de radio aujourd'hui, on s'est plutôt intéressé à la presse écrite effectivement.
Ouais, et on va essayer de parler sur qu'est-ce que c'est pour nous ce sexisme qui est véhiculé par les masses médias et aussi... voir comment ça se fait que les masses médias véhiculent une idéologie aussi sexiste, qui est même parfois pire que dans la famille ou qu'à l'école, et quelles conséquences ça a du point de vue du système patriarcal et surtout du système capitaliste. Voilà.
Et on va commencer après une petite pause musicale. Déjà, on vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle « Le coussin rouge » et qui est une chanson qui est interprétée par un groupe... deux femmes qui s'appellent le Quartet Buccal et elles sont assez sympas, elles ont des paroles super rigolotes.
Chaque fois que je te vois pas bête, y a un volcan au creux de moi qui fait ding ding dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète, tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourtant avant de te connaître, je ne flashais que pour de beaux gars. Pas les plus machos peut-être, mais enfin ils en avaient là. Voilà soudain que je m'empêtre, tourne-boulé dans de beaux draps. Oui, toi, ma belle, tu as fait naître de drôles d'envies qui ne s'avouent pas. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi? J'ai jamais eu ces pulsions-là, les lanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi, tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Je vais quand même pas te faire du plat, va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. J'aimerais me dévoiler, Babette, mais tu m'ignores et me chagrines, car pas une pensée malhonnête derrière ta tête ne trottine. Je pâlis, tremble et deviens bête, je bafouille et me ratatine, quand tu me passes tes bouquettes exclusivement masculine. Tenter le tout pour le tout, vu que j'aime assez mon petit chat. Mais si tu tombais à genoux devant un type nul et bêta, je serais tout prêt au cas où tu voudrais pleurer dans mes bras. Pourquoi moi je me mets dans ce drôle d'état pour toi? J'ai jamais eu ces pulsions là, les nanas c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi ce point là j'y crois pas. J'ai quand même pas de faire du plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. Chaque fois que je te vois, Babette, y'a un volcan au creux de moi qui fait ding dang dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète, tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourquoi moi je me mets dans ce drôle d'état pour toi? Pourquoi toi? J'ai jamais eu ces pulsions-là, les nanas c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi tu me trouves à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi? J'ai quand même pas de rêve de plat. Va falloir que je remette mon cœur à l'endroit.
Dégenré sur Kaléidoscope 97 FM. En fait, on vient d'écouter non pas le Coussin Rouge, mais Babette. C'est pas la chanson qu'on avait prévue, c'est une erreur, mais tant pis, vous avez écouté une jolie chanson sur une fille qui tombe amoureuse d'une fille qui ne s'y était pas attendue, mais finalement, c'est pas si désagréable.
Et oui, et c'est une erreur de nous. Alors du coup, pour continuer, donc, ce soir on parle du sexisme et des médias pour ceux qui prennent maintenant. Et du coup, moi je vais d'abord essayer d'expliquer, je dirais brièvement, la machination de la masse média, quoi. Comment ça fonctionne, tout ça et tout ça. Et d'abord, ce que je vais dire ici, moi je l'ai extraite d'une brochure qui existe, qui s'appelle « Le manuel de lecture critique de la presse », qui a été faite collectivement par la Escuela Popular de Prosperidad, qui est un groupe, j'imagine. Et cette brochure, je pense qu'on peut la trouver sur www.infokiosque.net ou encore sur yosk@inventi.org. Je reviendrai peut-être dessus à la fin. Donc la masse média, on peut dire que de nos jours, elle constitue l'opinion publique, et que donc cette masse média qui constitue... l'opinion publique est un élément fondamental pour la stabilité ou l'instabilité du système. Et là je pourrais souligner l'instabilité du système patriarcal, ou la stabilité. Donc dans cette société médiatique, l'opinion publique est construite jour après jour par le bombardement continu des médias. Et la seule vérité qui existe est celle qu'ils présentent. Ce qui n'apparaît pas dans la presse n'existe pas, et ce qui existe n'existe que dans la forme dont la presse le présente. L'importance des médias donne lieu d'une part à un fort contrôle des médias par le pouvoir et d'autre part à la nécessité que le contrôle, donc le contrôle du pouvoir sur les médias, passe inaperçu dans le but de préserver l'apparence de liberté d'information préalable et indispensable à la définition d'une société comme démocratique. Un troisième aspect de l'importance des médias est le fait que la majorité des médias sont des entreprises, donc des entreprises qui ont des objectifs commerciaux. Je fais une brève sur médias et entreprises parce qu'il faut savoir que la grande majorité des nouvelles sont diffusées par des agences de presse internationales.
Oui, 90% des informations produites sont produites par trois agences de presse capitalistes et dans des pays occidentaux.
Ouais. Il faut savoir que ces agences de presse sélectionnent déjà une partie de l'information reçue et en rejettent 90%. Donc c'est pour dire que ça brasse, à mon avis, aussi. Ce qui vient à notre connaissance n'est qu'une petite fraction de ce qui passe, de ce qui se passe dans le monde, quoi. Faut pas oublier que la plupart de ces agences sont des grandes entreprises, donc ce que tu disais, nord-américaines, européennes ou japonaises, en général étroitement liées à d'importants groupes financiers en contact direct avec les gouvernements. C'est pourquoi on peut dire que les médias, agences de presse, entreprises n'ont pas intérêt à ce que se produisent des changements sociaux, ni bien sûr à faire connaître des nouvelles et des situations qui mettent en évidence les dangers et les aspects négatifs du système ou qui rejettent en cause sa validité, exemple le patriarcat. Donc le résultat de la conjonction de ces trois facteurs, donc je répète les facteurs, c'est médias contrôlés par le pouvoir, la nécessité de dissimuler ce contrôle, donc pour faire valoir la démocratie prout-prout, et le fait que les médias sont en majorité des entreprises. Et ça, c'est la configuration d'un système de manipulation vaste et subtil, parfois contradictoire, mais qui généralement, plutôt que d'informer, essaye d'imposer une réalité par des moyens, par des moyens d'opinion et d'évaluation présentés comme vérité absolue. Pour conclure sur les médias, on pourrait dire que la réalité virtuelle construite par les médias est partielle et biaisée, et qu'en général, les médias couvrent en priorité les points de vue de celles et ceux qui détiennent les pouvoirs politiques et économiques, donc entreprises, grands partis, gouvernements, grands syndicats, etc., etc. Et que, par contre, bien sûr, l'optique, les valeurs, les opinions, les actions, les intérêts des jeunes, etc. Et quand je dis les intérêts des jeunes, c'est aussi les personnes âgées, les travailleurs, les malades, les étudiants, les prisonniers, les femmes, les immigrés, les lesbiennes, les handicapés, etc., etc. Qui sont presque toujours... soit on ne passe pas leur information, soit leur information est déformée, marginalisée, et tout ça, quoi. Et du coup, là, c'était un peu... Enfin, j'ai peut-être été rapide, mais c'était essayer de vous faire voir comment est-ce que les médias fonctionnent et sur quoi ça s'échange, tout ça, et comment ça circule, quoi. Et ouais. Qui est-ce qui est en haut de tout ça, bien sûr, c'est le pouvoir.
Et voilà, nous, à chaque fois qu'on est en contact avec ces masses médias et on n'a pas trop le choix dans notre société, eh ben, on est frappé par le fait qu'ils sont sexistes. Et du coup, voilà, qu'est-ce que c'est pour nous, le sexisme? On a plusieurs définitions.
Ouais, alors moi, la définition que j'ai envie de proposer pour le sexisme, c'est une définition large qui, pour moi, est... Enfin, mais qui est une définition large et peut-être une définition, enfin, celle qu'on a retenue pour cette émission, et qui aide à comprendre un peu pourquoi on va parler de médias sexisme, de médias sexistes, au sens très large. Enfin, je veux dire, de façon très très large, il s'agit pas juste de dire... Enfin bon, bref, j'ai quand même expliqué. Pour moi, un système sexiste, c'est un système qui établit une différence entre les deux sexes, le sexe femelle et le sexe mâle, et qui les hiérarchise. C'est-à-dire, un sexe va être valorisé par rapport à l'autre. Donc là, en l'occurrence, le sexe mâle est hiérarchisé supérieurement au sexe femelle. Et ce mot sexisme, il est construit sur la même base que le mot racisme, qui est donc aussi un système qui organise une différence entre d'une race à une autre et une hiérarchie entre ces races, quoi. Et c'est important de souligner ça et de souligner que ces différences-là, entre les femmes et les hommes, c'est des différences qui sont construites politiquement par ce système-là. Ce ne sont pas du tout des différences naturelles.
Parce que, en fait, toute l'idéologie sexiste repose sur le fait de dire « Voilà, les hommes et les femmes sont différents par nature ». Donc, on ne peut pas changer ces différences, et ce n'est pas du tout le fait que ce soit deux groupes sociaux traités différemment et ou qu'il y ait des inégalités entre. Ils sont différents. Bon, les femmes sont inférieures ou plus faibles ou plus fragiles ou plus dociles ou plus douces, plus soumises
ou par nature. Ou plus émotives ou plus psychologues par nature ou plus. Enfin, c'est pas seulement des défauts, hein, c'est aussi tout.
Voilà, c'est toute une idée que par nature les hommes et les femmes seraient différents, et comme on dit que c'est par nature, qu'ils sont par nature différents. Eh bien, on ne remet pas en cause tout le système tel qu'il est, qui pourtant est le lieu d'énormes inégalités sociales.
Et on va voir que, enfin, on va voir là tout au long de cette émission que la presse, de façon générale, véhicule à fond ces idées-là, les transmet, les construit de façon vraiment quasi indestructible, quoi. Enfin, c'est très très dur quand on voit la presse, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, ça ne remet jamais en cause. Ce système-là binaire, les femmes, les hommes sont comme des femmes, comme des hommes. Et,
ouais,
et hors de ça, pas de salut. Quoi.
Puis je pense que c'est une arme précieuse pour eux. Quoi. Enfin, le recours à la naturalisation est une arme précieuse pour les médias et pour persévérer dans les clichés et justement s'y faire vendre.
Et ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, presque, la quasi-totalité des masses médias considèrent les hommes et les femmes différemment, montrent des stéréotypes d'hommes et de femmes très très schématique et très toujours les mêmes, et en plus s'adresse différemment aux hommes et aux femmes. Enfin, c'est tout ça pour nous qui est sexiste. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on a 3h30 par exemple de télévision par jour par français en ce moment, et qu'on baigne dès notre enfance dans ce discours médiatique, 3000 pubs par jour qui nous arrivent sans qu'on demande rien et qui nous imprègnent en fait notre façon de percevoir le monde, les hommes, les femmes, qu'est-ce que c'est d'être un homme ou une femme. Et moi, par rapport à ce sexisme ambiant, je me souviens quand j'étais adolescente et que je voulais devenir une adulte, et ben clairement, je me référais au modèle féminin que montraient les masses médias. Et ça, ça a complètement imprégné ma personnalité, mon rapport au corps, mon rapport au monde. En gros, au collège, je devais ressembler à une poupée et les garçons devaient ressembler à des petits machos. Et voilà. Et même maintenant que j'ai acquis un esprit critique, toute cette construction, et ben, j'ai énormément de mal à m'en débarrasser parce que ça a complètement imprégné ma façon de percevoir le monde, quoi.
Donc, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau qui est extrait d'une compilation qui s'appelle Bang Bang, une compilation qui a été faite par DPD. Et là, les personnes qui ont fait ce morceau, c'est Nutella del Lirio et Politoxica. Et c'est une chanson qu'on aime bien, qu'on trouve chouette et qu'on avait envie de mettre là pour différentes raisons, parce qu'il y a des échos au sexisme ambiant, je pense, publicitaire, et aussi Barbie et toute cette panoplie de trucs féminins horribles.
Et le texte qu'on entend à la fin de la chanson, je me souviens plus du nom de la fille qui le dit, mais c'est une fille qui faisait partie du phare, le front homosexuel d'Action révolutionnaire dans les années 70. Et voilà, ça nous fait bien plaisir de l'entendre à chaque fois. Et moi, je voulais vous parler de la presse féminine. Alors après, le morceau qu'on vient d'entendre.
Ouh là là.
Ouh là là. Et du coup, je me suis intéressée un peu à cette presse féminine où il y a énormément de titres différents. Hein. Il y a, c'est, enfin, si vous allez dans les kiosques et vous regardez, c'est hallucinant le nombre de magazines qui sont proposés dans ce genre-là. Il y en a pour toutes les tranches d'âge. Alors, il y en a pour les petites filles, pour les adolescentes, pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour les femmes et pour les vieilles femmes, des titres chacun. Et ça, c'est spécifique parce que du côté des hommes, alors il y a des magazines pour les hommes, mais il n'y a pas comme ça découpé pour toutes ces tranches d'âge-là. Et la première observation que j'ai envie de faire, c'est que déjà, rien que le fait qu'il existe une presse féminine et une presse masculine, eh ben, ça montre déjà, ça dévoile plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et ça contribue aussi à construire un monde sexiste. À partir du moment où on considère que ce ne sont pas les mêmes choses qui vont intéresser les hommes ou les femmes, à partir du moment où les magazines pour les hommes, ça va être des magazines sur les voitures, je caricature pas, hein, sur le sexe, sur le sport, et les magazines pour les femmes, ça va être des magazines qui parlent de mode, de beauté et de psychologie, et je ne caricature pas.
Et d'amour et de famille et de couple.
Mais de psychologie, ça englobe tout ça. Comment s'en sortir dans sa vie ? Qui est vraiment affreuse peut-être, mais quand même. Et le premier exemple que j'ai envie de prendre, c'est un exemple dès l'enfance. Il existe le journal de Mickey et le journal de Minnie.
Ouais.
Donc vous devinez donc que le journal de Mickey, c'est pour les petits garçons et que le journal de Minnie, c'est pour les petites filles. Et alors, c'est hallucinant si on regarde ces deux journaux. Alors évidemment, le journal, donc c'est pour, je pense, les enfants qui commencent à lire de 6 à 9 ans, je pense, à peu près la tranche d'âge visée. Et donc, dans le journal de Mickey, nous avons des blagues, des BD, des petites fiches techniques pour construire les cabanes dans les arbres, mais surtout plein de blagues. Et dans le journal de Minnie, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons bon, aussi des BD, effectivement, mais des articles sur le look, comment Minnie s'habille, comment nananana, et déjà des articles sur des sujets psy, enfin psy, bon, genre... J'ai perdu ma meilleure amie, je suis trop triste. Mais déjà, ça commence déjà. Les filles seront là pour être sensibles, pour avoir une sensibilité forte, exacerbée. Et c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment, dès l'enfance, il y a bien des journaux genrés qui vont construire deux sexes différents, quoi.
Ouais, donc les stéréotypes sexistes, ça foisonne dans la littérature de jeunesse, déjà.
C'est sûr, bah, c'est sûr. Il faut regarder le dernier Harry Potter, c'est affreux. Bon, bref. Et je vous mets l'autre exemple auquel je pensais, c'est les journaux locaux. Alors bon, à Grenoble, c'est le Dauphiné Libéré, mais c'est le cas pour tous les journaux locaux en France. Le dimanche, il y a le magazine féminin vendu avec en supplément du quotidien du dimanche. Et alors, c'est que ça fait l'effet comme si toute la semaine, les femmes ne lisaient pas le journal, donc ne s'intéressaient pas à ce qui se passe dans le monde ou quoi. Mais le dimanche, elles ont droit à leur magazine qui ne parle pas du tout de ce qui se passe dans le monde, qui parle des soldes qui sont actuellement à Grenoble, de mode, de cuisine et de sujets psy. Enfin, on c'est pas très original, hein. On en sort peu. Et je trouve ce truc-là, bon, évidemment que les femmes lisent aussi le Dauphiné Libéré, hein, mais c'est révélateur, je trouve quand même, qu'il y a un supplément pour les femmes au cas où elles n'iraient pas le Dauphiné, quoi. Et si on compare ce qui est traité dans la presse masculine et la presse féminine, c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment mes méga clichés. Voilà, les magazines masculins, je le disais tout à l'heure, c'est les voitures, c'est le cul, c'est le sport. Les féminins, c'est la mode et la psychologie. Et vraiment, ça maintient les idéologies en place, quoi. Et vraiment, moi, je trouve souvent, quand on lit les magazines féminins, mais tous, je trouve vraiment qu'on sent un certain ordre moral, quoi. Vraiment, même ceux qui se veulent modernes, voire féministe, je pense que Marie-Claire et elle se revendiquent féministes. Hein,
contemporain.
Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment... Il y a vraiment un ordre moral hyper présent, quoi. Là, je voyais un dossier sur la famille dans Marie-Claire, c'est vraiment... à quoi servent les familles aujourd'hui ? Eh ben, la famille, ça sert à souder une société, c'est important dans une vie, même si c'est une famille recomposée. Bon, d'accord, maintenant, il y a les divorces, mais on peut quand même tenir à la famille, c'est important. Enfin, je trouve vraiment, il y a... C'est hyper moral, quoi. C'est hallucinant. Et alors, j'ai trouvé un autre article dont je vais vous parler plus en détail parce qu'il m'a vraiment fait halluciner. C'est un article dans 20 ans.
Ah, ça, c'est grand, hein, c'est beau.
Ah oui. Alors, 20 ans, un magazine pour les jeunes filles, je pense qu'en général, on lit à partir de 15 ans. Plein d'inepties avec des milliards de pages mode, des milliards de pubs, des milliards d'articles inintéressants. Et ce mois-là, alors je crois qu'il date un peu, hein, il date de je sais pas quand, il n'y a plus la date. Mars 2005. non, c'est le printemps dernier, nous avons un article sur les nouvelles sexualités. On se dit, ah,
enfin.
Enfin, quelque chose de nouveau, nous allons pouvoir sortir de la sacro-sainte pénétration. Il existe d'autres choses. Voyons ce que 20 ans nous propose. Alors, c'est quand même assez... 20 ans nous propose comme quelque chose d'un peu bizarre. C'est quand même pas tout à fait normal, tout ça. Mais effectivement, il y a des gens, là, quelque part, dans le monde, qui proposent d'autres trucs que la sexualité de pénétration. Que le coït hétérosexuel. C'est un peu bizarre, mais quand même, à 20 ans, elles sont curieuses et elles veulent savoir. Alors, on nous propose le sexe sans amour, mais bon, quand même, on nous dit que c'est un peu sordide.
Limite salope.
Limite. On nous propose le sexe sans sexe, c'est-à-dire le sexe virtuel par ordinateur, mais ça c'est un peu bizarre. Et surtout, on nous propose une grande nouveauté, ça vient de sortir, ça n'a jamais existé avant que 20 ans en parle, c'est le sexe sans personne, ce qu'ils appellent, ça comme ça, c'est-à-dire la masturbation. Bravo 20 ans d'avoir découvert la masturbation en mars 2005.
Ça nous fait du bien, on sent mieux.
C'est ça. Et alors, 20 ans, on nous parle des sextoys, parce que c'est très à la mode, c'est vrai, ces derniers mois. Donc, les sextoys, c'est des objets sexuels, les jouets sexuels.
Les gones michés, les
protèges. Tout ce qu'on veut peut devenir un jouet sexuel. Hein. Mais donc là, on nous parle des sextoys. Donc, paraîtrait-il même qu'une grande femme de la mode, dans sa boutique, vend des vibros et des godes. Et alors, au début, voilà, c'est très drôle. On dirait que c'est une blague un peu, c'est très très drôle, allez, on peut commander à la Redoute, c'est très drôle. Et puis on a un témoignage d'une fille qui dit qu'effectivement, eh ben, elle a un petit canard en plastique qui vibre et que dans le bain, elle trouve ça hyper chouette. Au début, elle l'a testé avec son copain, puis finalement, elle l'utilise toute seule parce que c'est pas mal. Alors voilà, et puis elle est plutôt contente et c'est plutôt positif. Mais vient l'avis du psy, enfin du docteur, donc le docteur Gérard Leleu. Un grand docteur à 20 ans. Nous ne savons pas s'il est psy ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, il est docteur. Et alors lui, attention quand même. Tout ça est très drôle, mais le docteur Leleu nous met en garde. Et je vous lis texto ce qu'il dit, parce que vraiment, ça vaut le coup. L'addiction aux jouets érotiques est possible et leurs utilisatrices risquent d'attraper des cystites et des vulvites. Et puis, elles risquent aussi de devenir beaucoup moins sensibles à leurs propres caresses ou à celles d'un partenaire. Je conseille plutôt l'autocaresse à l'artisanal. Alors, c'est juste une vaste connerie, hein, enfin, du début à la fin. Je tiens à dire quelque chose, parce que vraiment, c'est faux. Ce n'est pas en se masturbant qu'on attrape des cystites ou des vulvites, ou vraiment, si vous vous masturbez avec les mains super crades, ou je ne sais pas, mais d'ailleurs avec les mains,
encore, hein.
Pas avec un god, et encore. Non, enfin, je veux dire, c'est faux, quoi. C'est complètement faux que de dire de se masturber avec un vibro, ça va vous faire attraper une cystite ou une vulvite. C'est un concentré de conneries, quoi. Et c'est vraiment hyper moral. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi l'article? Parce que c'est ça, hein, là, l'article, ça y est, il est fini. Donc, le début, c'est drôle. Après, on a le témoignage de la fille qui dit que c'est cool. Et après, on a l'avis du spécialiste qui lui dit que, attention, c'est peut-être cool. C'est peut-être fun, mais c'est dangereux.
C'est dangereux et en plus, ça, comment ils disent, que ça diminue...
La sensibilité,
ce qui n'est pas vrai aussi. Hein, je tiens,
on peut confirmer tout ici que se masturber ne diminue pas la sensibilité.
Voire même, on pourrait peut-être dire le contraire. Mais chut.
Enfin bref, moi vraiment, au-delà du caractère un peu drôle et tout, voilà, on peut se moquer, mais je trouve ça grave en fait. Je trouve ça grave parce que là, c'est l'avis du spécialiste qui va dire que bon, la masturbation, d'accord, mais pas trop, parce que ce qu'on retient, c'est que ça risque qu'après, le sexe avec d'autres personnes, c'est moins... Le sexe avec des garçons, on va moins en apprécier. Bah, peut-être effectivement que...
Ce que je trouve moi aussi effectivement horrible, c'est que j'ai l'impression que les jeunes filles ou les femmes qui lisent ça, elles vont rester sur cet article, enfin, elles vont rester sur cette espèce de conclusion hyper... hyper moraliste.
Ah mais c'est clair, parce qu'après, il y a les journalistes qui ont testé les jouets sexuels. Alors, évidemment, elles ont testé les mauvais godes, elles ont trouvé le god trop moche. Et c'est super négatif, quoi. Enfin, je veux dire, tu sens que l'article, il est hyper orienté pour dire que tout ça, là, c'est peut-être la mode, mais c'est pas bien, quoi. C'est pas...
Ouais, c'est bien d'acheter un god, mais quand même de pratiquer trop souvent, d'être autonome... quand même, c'est quand même pas extraordinaire. Il vaut mieux être avec quelqu'un, avoir une relation stable, avec un garçon, avec un coït. Et tout va bien quand même. C'est ça, la sexualité épanouie, hein, clairement.
Et vraiment, c'est ça. Enfin, pour moi, le sens de cet article, c'est un article qui va dans vraiment confirmer que la norme, c'est effectivement, c'est pas là tous ces nouveaux trucs, bon, ces espèces de trucs farfelus là, mais c'est pas le vrai chemin, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très moral. Il y a vraiment un fond très moral, alors que c'est un magazine qui se veut presque subversif. Enfin, je veux dire, par moments, j'ai l'impression qu'il y a de la provoque, tu vois, voilà. Mais en vrai, c'est pas ça, quoi. En vrai, il y a la morale est sauf, quoi, à chaque fois, à chaque article. Mmh.
Mais c'est pareil dans toute la presse féminine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de les trois quarts, voire 95%, ce sont des stéréotypes sexistes, que ce soit les pubs qui font la moitié du magazine, comme les articles qui répètent toujours la même chose sur des modes différents en fonction du public à qui ils s'adressent. Mais c'est toujours dans les stéréotypes féminins. Et on a une caution parce qu'à un moment, on aura parlé d'une lesbienne ou on aura parlé de la masturbation. Mais non, on n'est pas en train de mettre des schémas dans la tête des gens. Mais n'empêche qu'on n'aura jamais une pub où avec une fille qui se masturbe. On n'aura jamais... Ce sera toujours des pubs de filles hétérosexuelles, passives, qui attendent
et qui sont là pour vendre, quoi. Qui sont là pour vendre, à un moment donné. C'est...
Ouais.
Oui, parce que je crois que moi, par rapport à la pub, un truc que j'ai envie de dire, parce que c'est souvent un argument que j'entends, un truc de... Mais vous, les féministes, vous n'aimez pas les filles à poil sur les pubs, c'est parce que vous êtes prudes, c'est parce que...
On est contre l'émancipation, limite, quoi.
Oui, t'as l'impression d'être une vieille catholique coincée qui veut pas voir des corps nus. Bon, il s'agit pas de la nudité, pour moi. Enfin, c'est pas un souci de voir des corps nus. Mais voir un corps de femme, nu ou habillé, d'ailleurs, c'est pareil. Pour vendre une voiture, eh ben, ça a pas de sens, quoi. Je crois vraiment que c'est pas la question... C'est aussi la question du découpage des corps, enfin, je sais plus...
Ouais, le découpage des corps, c'est, enfin, on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est cette espèce de truc où tu vois juste des parcelles de corps, genre les jambes pour vendre le yaourt, ou, enfin, c'est ce qui renvoie vraiment, moi je pense, à pour moi ce visu, comment on peut dire, objet sexuel, quoi, enfin objet de désir, enfin qui fait vendre, ouais, c'est ça, c'est.
Ouais, et puis souvent les publicitaires en fait construisent leur publicité en disant voilà, les gens vont acheter un produit si en gros on associe à ce produit une idée de réussite sociale. Et on voit très bien que ce qui stimule chez les hommes, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres, de maîtriser son environnement technique, d'avoir de l'argent, d'être riche, d'être puissant. Et chez les femmes, c'est en gros de ressembler à un corps objet de désir sexuel. C'est vraiment la réussite sociale des femmes passe par un pseudo corps, par un corps passif. C'est jamais, on montre jamais des femmes qui sont actives sexuellement, désirantes, quoi, qui sont des sujets de désir et pas des objets de désir. Et je sais que moi j'avais une amie qui me disait mais oui, mais toute cette presse et cette publicité finalement elle répond aux attentes des hommes et des femmes. Et moi, ce que j'avais dit, c'est que bon, ces attentes, elles sont construites déjà depuis la plus tendre enfance. On voit ces publicités et cette presse. Mais aussi, si il y a toute cette presse magazine pour les femmes, c'est aussi parce que souvent, les femmes n'ont pas le temps de lire de la presse informative, quoi, des quotidiens, des journaux, parce qu'elles font toujours 80% du travail domestique à temps de travail égal salarial, hein. Et qu'elles n'ont pas le temps de lire autre chose. Cette presse magazine complètement futile, c'est parce qu'elles lisent un bout d'article en même temps qu'elles font à manger, en même temps que leur gamin leur demande. Moi, j'ai jamais vu une femme posée avec des charentaises dans un fauteuil en train de lire le journal, avec des gamins qui disent « Hé, maman, j'ai envie de faire ça », et qui dit « Ne dérange pas ta mère quand elle lit le journal », alors que des hommes... J'ai toujours vu des hommes faire ça. Pendant que leur femme prépare à manger, ben eux, ils lisent le journal. Ils ont le temps de s'informer sur le monde, de réfléchir, d'avoir des loisirs, ce que les femmes ont très peu. Du coup, elles ont ces espèces de loisirs postiches qui sont la presse, qui leur répètent en gros que quand même... Parce que les femmes qui lisent la presse, c'est aussi les femmes qui lisent la presse en faisant à manger. Et qui leur disent, voilà, alors vous avez votre petite recette. Et voilà, ça s'adresse à un public, mais ça s'adresse aussi à une condition sociale qui est assez dramatique, quoi.
Et vraiment, ouais, c'est clair, quoi. J'ai jamais vu, ni dans Elle, ni dans Marie-Claire, ni dans aucun magazine, lire, vous avez qu'à aller lire Le Monde Diplomatique un petit coup, pendant que votre mec, on vous donne des fiches cuisine pour lui, quoi. Ben, c'est pas ça qu'on dit, quoi. Effectivement, c'est bien.
Ouais, je pense que cette presse, elle encourage, enfin, de toute façon, la presse, elle veut vendre, quoi, aussi. Et du coup, elle va, de toute façon, je vois pas Elle. Conseiller d'autres lectures, quoi.
Et je me souviens aussi de ce truc qu'il y a eu un moment donné où ça a été la mode de dire mais non, mais en fait c'est pas vrai, on ne dit pas qu'il y a que les femmes maigres qui sont belles, donc il y a eu la mode de dire les femmes grosses, enfin c'est possible d'être grosse et belle, en gros c'est ça. Et alors les photos de femmes qu'il y avait à ce moment-là dans les magazines, faut pas croire que c'était des femmes grosses.
C'était des femmes un peu rondes, avec un petit peu de peau sur les hanches, un petit peu de sein, un petit peu de fesses, mais les bourrelets, les poignées d'amour, les doubles mentons, les oreilles qui tombent.
Toutes ces choses si belles, on ne les voyait pas. Et surtout, le pire, c'est qu'à côté de ces articles-là, où on voyait effectivement des femmes moins maigres que dans les pubs qu'il y avait juste à côté, quoi. Moi, je trouvais ça terrible.
Ouais. J'avais vu un cassage de pub qui m'avait beaucoup plu et qui était, où c'était marqué dans les sociétés où il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'anorexie. Et c'est pour dire que ce sexisme qui traverse nos sociétés, et ben, ça a des conséquences réelles sur des gens et ça fait mourir des gens et ça fait mourir des femmes, hein, notamment.
Et ceci, c'est bien dit, je trouve. Et moi, ce que j'ai envie de souligner, peut-être, c'est aussi ce fait que ces corps qui sont représentés en masse et tout ça, c'est des corps qui sont irréels, enfin, qui sont inaccessibles et irréels, et c'est ça l'horreur, quoi. Et c'est aussi ce que tu disais juste avant, c'est que tu pourras faire tous les régimes que tu veux, tu pourras faire... t'arriveras pas à cette esthétique, ma foi, abominable de corps, quoi.
Qui est un corps qui est coupé par ordinateur, alors effectivement.
Ouais, qui sont aussi des corps anorexiques, pour beaucoup...
Et bien alors, complètement en lien avec ce dont on parlait, je vous propose une chanson des Reines Prochaines, qui est un groupe suisse-allemand qu'on passe souvent, parce qu'on aime beaucoup à dégenrer. Et là, c'est une chanson qui s'appelle « I hate diets », ça veut dire « je déteste les régimes ».
Yeah, it happened one day, and it happened in front of a hairdresser shop. She was sitting there, alone. She was waiting, me too, but then we crossed the eyes, and that's what I told her. Hillbilly liebt Wurstetal, Hillbilly liebt Käseplatte, Hillbilly liebt Sahnetorte und Hillbilly liebt Schweinebacke.
Donc, je répète, c'était les reines prochaines. Vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaleidoscope 97.fm.
Et si vous pensez des choses ou que vous voulez nous écrire ou nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez, nous donner des idées, nous passer des infos que vous voudriez qu'on diffuse ou qu'on relaie, n'hésitez pas à nous écrire à la radio. Et donc, vous pouvez écrire à Radio Kaleidoscope BP 422 38018 Grenoble CEDEX 1 ou vous pouvez nous envoyer un mail à dégenré avec deux E à la fin. @boom.org.
Voilà, aujourd'hui c'est sexisme et médias. On essaie de faire un peu une critique de la presse. Et moi je voulais vous proposer un peu une critique des articles scientifiques qui s'attachent aux hommes et aux femmes. Alors, parce qu'on en trouve assez souvent. Moi j'ai regardé un peu tout ce qui est presse quotidien, journaux, etc. Enfin, ou presse scientifique. Et j'étais assez dépitée, c'est-à-dire à part quelques brefs articles qui disent, voilà, dans tel pays, il y a tant d'écart, tant de pourcentage d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, et quelques petits courts articles comme ça qui ne disent jamais pourquoi, enfin, quels sont les mécanismes qui font qu'il y a des tels écarts. Il n'y a pas grand-chose, à part quelques articles qui sont assez étonnants. C'est-à-dire qu'ils sont censés présenter des recherches scientifiques. Voilà. Alors, moi, comme je fais des recherches scientifiques, je voulais dire déjà que, globalement, enfin même en immense majorité, le monde scientifique, que ce soit en biologie, en chimie, en sociologie, en psychologie ou en histoire, considère que les hommes et les femmes ne sont pas différents par nature, mais que c'est le fruit d'une construction sociale et de conditions sociales qui sont... On considère les hommes et les femmes comme des groupes sociaux, et ça depuis 30 ans, c'est quand même acquis dans toutes les matières. Et notamment biologiquement, c'est prouvé, quoi. Eh bien, je suis très étonnée parce que, en gros, les 4 recherches scientifiques par an qui sont naturalistes, c'est-à-dire qui disent en gros que les hommes et les femmes seraient différents par nature, sont extrêmement diffusées par les masses médias, tandis que tous les autres ne sont jamais diffusés. Alors, on a un superbe article là que j'ai trouvé dans. C'est pas le Monde diplomatique, celui-là, c'est Courrier international. Ah oui, Courrier international, ça s'appelle « Odeurs corporelles, les affriolants effluves du pouvoir ». Alors là, j'ai regardé un peu le protocole, j'ai regardé un peu qui l'a fait. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour voir que c'est une immense fumisterie. Enfin, c'est n'importe quoi. Chaque phrase de cet article est absurde, quoi. On pourrait dire que la comète d'Halley va s'écraser sur la Terre demain, ce serait à peu près pareil. Tout le protocole scientifique est complètement stupide. Ils ont un échantillon extrêmement restreint. En gros, ils mettent des petits cotons sous les aisselles de mecs et le font sentir à des femmes. Et en gros, ce qu'ils vont dire, c'est que les hommes qui ont du pouvoir sont plus attirants sexuellement. Enfin, leur sueur attire plus les femmes. Alors voilà, c'est complètement stupide. Alors je vais prendre une phrase, parce que je ne vais pas vous faire tout l'article, ça serait trop long. Le docteur Jean Havlicek et son équipe se sont demandé si, à l'instar des femelles des autres espèces, les femmes étaient attirées par l'odeur corporelle des mâles dominants. Alors déjà, rien que cette phrase, c'est complètement stupide. C'est-à-dire que si vous faites de l'éthologie, c'est-à-dire de l'étude du comportement animal, déjà la notion de mâle dominant n'existe pas en éthologie. Ensuite, les femelles, enfin les comportements des espèces animales sont extrêmement différents, notamment les comportements sexuels. Il n'y a pas du tout
d'une espèce à l'autre.
Ouais, d'une espèce à l'autre. C'est même à l'intérieur d'une même espèce, quoi. Et ensuite, enfin rien que dans, par exemple là où on pourrait voir cette idée de mâle dominant, c'est dans certaines espèces de mammifères, il y a quand les femelles ont leur chaleur. Enfin les femelles sont pas. Enfin, par exemple, on va dire chez les moutons, les femelles ne désirent pas les mâles, elles ont leur chaleur à des moments. Et si, on va dire, il y a très peu de femelles pour beaucoup de mâles, ça arrive que des mâles se battent. Et du coup, c'est le mâle qui aura eu le dessus sur l'autre mâle qui va pouvoir avoir plus de rapports sexuels. Et encore, c'est vraiment extrêmement petit. Du coup, on voit rien que cette phrase, c'est complètement stupide. Et moi, ce que je trouve intéressant quand on voit ça, c'est que, bon, si la conclusion d'une étude complètement stupide comme ça aurait été que les femmes sont plus attirées par les hommes qui ont les avant-bras poilus, eh bien, ça n'aurait jamais été diffusé, parce que l'intérêt, en fait, c'est que ça véhicule des gros stéréotypes sexistes. C'est-à-dire que, en gros, la conclusion, c'est que les hommes, allez-y, dominez les femmes et dominez les autres hommes, parce que comme ça, vous niquerez plus de femmes. En gros, c'est un stéréotype, et c'est pas du tout ce qui évoque en fait ce qu'on vit dans nos univers. En fait, c'est pas du tout prouvé scientifiquement. C'est alors que par contre, des études qui montrent que dès toute petite, on apprend à désirer le prince charmant, qui est l'homme qui a le plus de pouvoir sur le royaume, enfin toutes ces choses-là. Ça, par contre, c'est une construction sociale et qui fait qu'en effet, les femmes vont essayer d'avoir des rapports sexuels avec des gens qui ont plus d'argent ou plus de pouvoir. Certes, quoi, mais c'est pas du tout lié à l'odeur qu'on a sous les aisselles, quoi.
Et moi, ça me fait vraiment penser que les chercheurs, ont vachement de pouvoir, et la presse aussi, hein, mais du coup, les articles qui sont diffusés, et on peut vraiment voir... Dans le choix des articles scientifiques, effectivement, ou pseudo-scientifiques qui sont diffusés par la presse, c'est quoi les choix éditoriaux, quoi. Et par exemple, moi, par rapport à une autre question de société, comme on pourrait appeler ça, qui est un peu discutée en ce moment, parce qu'il se trouve que c'est un sujet politique, c'est l'homoparentalité, donc c'est le fait de peut-être faire des lois qui permettent aux couples homosexuels ou lesbiens de faire des enfants ou d'adopter des enfants. Ce qui est permis, ce qui est légalisé dans plusieurs pays européens, mais pas en France. Donc c'est en ce moment discuté. Et alors du coup, la presse en parle. Et alors c'est fou, parce que la presse en parle, mais alors tous les commentaires, donc les psys en parlent beaucoup aussi, et tous les psys qu'on entend, dans les grands médias, hein, c'est des psys qui disent qu'il ne faut pas. Qu'en gros, c'est dangereux, ça craint. Enfin, je ne répète pas bien ce qu'ils disent. Enfin, bon. En gros, c'est pas... C'est pas une très très bonne idée. Et c'est fou parce qu'il existe des études qui ont été faites, notamment en Angleterre.
Oui, qui sont sérieuses, qui sont pas basées sur 10 personnes, qui sont sur des échantillons extrêmement grands. Enfin,
oui, des vraies études qui ont été faites universitaires et tout ça par des vrais chercheurs, enfin bon bref, qui montrent qu'en gros, les enfants qui ont grandi avec des parents homosexuels, que ce soit lesbiennes ou gays, pour résumer super caricaturalement, sont les mêmes que les enfants d'hétérosexuels. Et, enfin, grosso modo. Mais ces études-là, on n'en entend pas parler dans la presse. On n'entend parler que de ce que disent les psys qui sont plus ou moins contre. Et ça, je trouve, c'est vraiment des choix. Et on voit bien, ça illustre bien ce truc des choix éditoriaux.
Il y a une sélection de l'information.
Il y a vraiment une sélection de quoi on va parler, quoi.
Ouais, et moi, je pousse des hurlements parce que je connais assez bien la production. Et alors... Mais cette production est jamais diffusée. Par exemple, on a j'ai vu la dernière fois une pseudo-étude où des bébés singes femelles joueraient plus avec des poupées et des bébés singes mâles joueraient plus avec des tanks. Enfin, ça, c'est hallucinant. Enfin, je vais vous dire, c'est complètement stupide. Ou alors que les hommes et les femmes auraient des cerveaux différents. Alors ça aussi, ça, c'est amplement diffusé, alors que c'est complètement faux. Enfin, c'est des études qui sont complètement stupides. Et alors même pire, moi j'ai vu aussi des études que je connaissais qui étaient diffusées et dans le journalisme on appelle ça la scénarisation, c'est-à-dire pour vulgariser une étude, on va faire en sorte de faire référence à quelque chose que le lecteur connaît ou la lectrice connaît. Et alors des études qui étaient pourtant bien et sérieuses et qui n'étaient pas sexistes, eh ben on va faire quelques petites allusions. Ah mesdames, soyez contentes, vous avez plus de si. Enfin, ça redevenait sexiste par la scénarisation. Ou alors on met côte à côte des études qui n'ont pas du tout la même validité, par exemple sur le cerveau. D'un côté, il y a eu une étude sur 20 cas, une autre sur des milliers de cas, et on les met côte à côte en disant voilà, il y a celui-là qui dit ça et celui-là qui dit ça, alors qu'ils n'ont pas du tout la même validité. Enfin, c'est... Voilà, c'est bien dommage en tout cas.
Et ben on va faire une petite pause musicale en écoutant Scream Club. And you belong to me.
Like a French maid and watch you do the dishes. Girl, you look delicious. Let me snap some pictures. Better yet, let me grab the video camera. You're a professional, so far from an amateur. You know what you're doing. You know what I like. And you know that talking dirty surely gets me excited. Like when I ask you, who's my
my bitch. Baby girl, I got to know who I am fucking with. Like, do you need it? Do you deserve it? And get on your knees and prove that you're worth it. Work it, girl. Like, you making a living. Gotta make me believe you can take what I'm giving. Cause when push comes to shove, I love the attention. And really tell me what's wrong with that. I know how to bottom out when I want it from the back. Cause I'm a switch hitter, a go getter. Oh, so sweet that you creeps get bitter. But I got a good thing that does me right. So if you wanna know what it's like, it's like an overall tan. Money in my hand for the first time I can finally do a headstand. It's like an A plus after a long study. Didn't know things could ever be this lovely. This must be why people go nuts. Ditch all their friends and then say, so what? I'm just kidding, but for real, no words could express how you make me feel inside. I wanted to hide at first. I thought, man, love only hurts and curse. But you reverse this bad attitude, and I'm not sad anymore. Not since you've been my lover. Now I only get nasty under the covers. There's no other, no reason, no desire. This is not the doors, but you sure like my fire. Now I burn for you like a pyromaniac. We engaged in conversation and your gaze became a trap. Like a maze without a map, or like days without a nap. I was tired with the dying, need to find something inspiring. And there you were, standing there, like the answer to my prayers. There you were, standing there, like the answer. The way we communicate as adults, but wrestle like we was a couple of kids. Yeah. When I pin you on the ground and tickle your ribs, and you slap my face and I'll slap your booty. We can get dressed up and go out to the movies, and I can pretend to be the feminine one. Get all dolled up in stocking holes with the run, cause the more whorish, it's more fun. Getting slutted out to the maximum, and you can be the greaser with a heart of gold. Give me your jacket when the weather gets cold. Take me out to dinner in the middle of the night. Waitress wanna know,
are you feeling alright?
Cause you try to order, but you're barely able. Cause you're feeling my handiwork underneath the table. Now you say, baby, I'm in the mood to test out your sexual aptitude. No fantasy. Now you a tutor. Let's put a little truth in the schoolhouse rumors. You older, probably wiser, but you can't keep your hands on my three-ring binder. Following me to class to ask if I wanna go with you to the homecoming dancing. Telling me things like I stole your heart, even though we're three grades apart. And I always didn't even know what's inside my locker. So the day after school, I'ma break you off probably. Just wait until three.
Alright.
And then you'll see.
I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me, have me, hold me.
I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me, have me, hold me.
People would wonder, who do we think we are? They knew we stayed up late to talk about how great we are. As a couple, we must be the perfect blend. Cause we go together like multivitamins. Or old fashioned to frustration, microwavable burritos to gas stations, a homeless to will work for food signs, or a lack of education to a welfare line, or unprotected sex to STDs. I relate to you, can you relate to me? In this crazy world, you got each other. But if nothing else, you got yourself. But somebody like you's probably good for my health. My own personal private slice of heaven. Depend on me, and I won't leave you guessing. No stressing, only minimal drama. One day soon, I'll introduce you to mama and dad, so I can show you off. It's the only thing that stands between me and lost. And all it cost was a nominal fee of due respect and honesty. Why would I ever want to flee from this anomaly? I wouldn't.
I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me, have me, hold me. I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me, have me, hold me. I'm yours, and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me, have me, hold me.
I'm yours,
and you can do what you want with me. Honestly, pretty in your hands I am. Shake me, take me.
Radio Kaleidoscope, une émission dégenrée sur 97 FM. Moi, j'avais envie de reprendre sur ce que tu disais, Nicolène, tout à l'heure, sur ces histoires de presse scientifique. Alors moi, ça me fait penser à des bouquins. Bon, c'est pas de la presse, mais alors... c'est deux bouquins qui sont hyper à la mode en ce moment. Vous avez certainement déjà vu passer devant vous, voire vous les avez lus. C'est « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Et l'autre livre, ils se valent, hein, c'est « Pourquoi les femmes ne trouvent pas, savent pas lire des cartes routières et les hommes ne trouvent pas le beurre dans le frigo ». Je crois que c'est un titre aussi alambiqué que ça. Hein. Et alors ces deux livres-là, c'est des livres qui se veulent quand même... plus ou moins scientifiques, enfin, je veux dire, ça doit être des thérapeutes quelconques qui les ont écrits, ou je sais pas trop qui, et qui se veulent scientifiques, et qui sont quand même des vastes conneries sexistes, vraiment, c'est hyper grave, mais vraiment, 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 je voulais pas forcément en parler beaucoup plus longtemps que ça, juste de dire, fuyez ces livres, ou je sais pas, enfin, je les trouve vraiment, vraiment très dangereux, quoi. Enfin...
D'autant plus que dans le monde scientifique, ils sont complètement discrédités, hein. C'est pas du tout des ouvrages qui font référence. Et en plus, ils sont produits souvent par des laboratoires autonomes. Entre autres, il y a un des deux qui est produit par un laboratoire mormon qui fait aussi ce genre d'études sur le cerveau des Noirs et des Blancs et qui dit qu'en gros, les Noirs ne doivent pas être au pouvoir parce qu'ils ont un cerveau plus primitif que les Blancs. Et là, les femmes ne devraient pas faire d'études scientifiques parce qu'elles n'auraient pas le cerveau fait pour ça. Enfin, c'est vraiment des gens qui font des choses craignos et qui se réclament... pseudo-scientifique, alors que c'est complètement stupide, quoi.
Et le problème, pour moi, c'est peut-être qu'ils sont pas reconnus par les milieux scientifiques ou je sais pas quoi, mais ils sont hyper populaires, quoi. Et ils ont, enfin, je veux dire, il y a un pouvoir de ces bouquins-là sur les gens, pas sur, je parle pas des scientifiques, là, je parle des femmes, quoi, des hommes, de nous. Enfin, c'est ça le problème, c'est que les psys, même les psys les plus craignos, qui sont pas reconnus par le métier des psys, enfin, je sais pas comment dire. Mais qui parlent dans les médias, ben, c'est eux qu'on entend, quoi. Et c'est eux qui ont du pouvoir. Et c'est, moi, c'est pour ça que je suis en colère, quoi. Enfin...
Et dans un autre registre, toujours de livres, que là, moi, j'assimile un petit peu à la presse, alors que ça n'a rien à voir avec de la presse, hein, ça reste des espèces de romans à l'eau de rose et tout ça, mais c'est le bouquin Harlequin, qui nous marque déjà tellement avec ses couvertures où il y a cette... cet homme magnifique, si... avec cette caricature si... cette carrure, pardon, si grande, mon Dieu. Et cette femme si glamour, bien prise dans ses bras, enfin, c'est magnifique. Et c'est une autre catégorie de livres nazes, mais c'est quand même un bon livre naze.
Et effectivement, c'est pas vraiment de la presse, mais c'est presque comme de la presse parce que ces livres-là ne sont pas vendus en librairie, ils sont vendus dans les kiosques. Et tu vas nous dire à quelle fréquence, mais vu que c'est vendu dans les kiosques, et ben ça ressemble un peu à de la presse.
Ouais, c'est bon, c'est effectivement vendu dans les kiosques et ça coûte à peu près le prix d'un paquet de clopes. Enfin, c'est juste pour dire que c'est pas cher et du coup que c'est un truc qui se lit. Donc faut savoir qu'il y a 47 nouveaux harlequins par mois. Oui.
Plus d'un par jour.
Et que c'est traduit dans 99 pays, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'attache au fait que c'est quand même de la lecture quotidienne pour beaucoup. Et donc il y a plus de 3 millions de lectrices en France, quoi. Donc moi ça me fait un peu peur. Alors, je sais pas, j'imagine que vous avez déjà tous plus ou moins tripoté un harlequin une fois dans votre vie. C'est sensationnel. Et donc Harlequin, c'est un roman d'amour, rose, sentimental, de rêve et d'évasion. Donc, c'est encore des romans qui sont construits sur un modèle complètement sexiste. Là, en l'occurrence, généralement, dans Harlequin, un modèle aussi complètement américain. Donc, homme blanc, musclé, brun, hétérosexuel, amant idéal et tout ça. La femme, elle est... c'est beaucoup plus médiocre, quoi. Elle est contemporaine quand même, hein. Elle commence à travailler. Elle se laisse pas complètement marcher sur les pieds. Elle est...
Et ouais, elle travaille effectivement, mais elle a toujours un métier qui va être subalterne par rapport au métier de l'homme, du héros. C'est-à-dire que si elle est médecin généraliste, lui, l'homme, sera chirurgien ou un...
directeur d'hôpital.
Même si elle a un métier qui est reconnu et un bon métier, l'homme héros aura toujours un métier plus haut que le sien. C'est assez révélateur quand même.
Et ouais, donc ça c'est évident. Enfin, il y a toujours le schéma de domination dans tout. Hein. Je pense qu'il apparaît dans Harlequin, mais il est plus ou moins masqué des fois. Quoi. Ça, il y a quand même un. C'est encore cette espèce de truc où c'est caché et puis c'est tellement acquis. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc, l'homme dans ce roman correspond au stéréotype de l'homme viril, Lui, il est acteur de sa vie, il est aventureux, il est maternel. Enfin, il est maternel. Alors ça, c'est une petite bref. Il est maternel après le rapport sexuel. Bon, je reviendrai dessus après. Et c'est toujours lui qui est dans l'action et tout ça. Et elle, elle n'est jamais motrice de rien ou initiative de rien. Elle suit, elle est à l'écoute. Enfin, c'est bourré de trucs comme ça.
Il faut savoir que les Harlequins, donc, vu le nombre qu'en sort chaque mois, donc, c'est écrit toujours sur le même canevas. C'est-à-dire, là, on en parle si c'était tous les mêmes. Mais effectivement, quoi, tous les Harlequins sont construits sur le même scénario d'histoire. Alors, avec des changements de situation, un coup c'est à la montagne, un coup c'est à la mer. Mais en gros, c'est le même schéma. Quoi. Une femme rencontre un homme. Au début, elle ne l'aime pas trop parce qu'il est un peu macho. Et finalement, elle va tomber amoureuse de lui et découvrir, sous son apparence de macho, un homme sensible.
Tout à fait, un homme sensible. Donc, du coup, c'est bourré de stéréotypes comme ça, que ce soit à la campagne, à la mer ou chez mamie. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'à partir du moment... Parce que alors, ce qui est palpitant quand même dans ces romans, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même soi-disant un peu d'érotisme. Mais l'érotisme, ça couvre, je sais pas, les deux paragraphes sur un bouquin qu'en fait 60. Mais alors c'est vraiment hallucinant de regarder comment sont construits ces rapports... donc déjà t'as une première page sur les préliminaires et tout ça machin où ça reste très tu sais pas trop, enfin c'est quand même c'est charnel, du domaine
charnel. C'est vachement sur le désir, quoi. Enfin, c'est ils se désiraient, ils se regardaient, ils se prenaient dans les bras, ils s'embrassaient, ça va prendre beaucoup de pages.
Voilà, c'est ça, ça prend beaucoup de pages et à partir d'un moment donné on arrive sur le moment tant attendu, le moment sexuel qui n'est autre que le coït. Oui le coït. Alors là c'est abominable parce que là on peut rentrer dans une critique qui pour moi est douloureuse, quoi. C'est un truc où encore une fois dès qu'on arrive dans ces moments là donc déjà dans le moment charnel elle est pas très actrice, elle se laisse toucher, enfin bref elle est tu vois elle est un peu chippie mais quand même quoi, pas trop. Et alors là, dès qu'on arrive dans ce moment qui devient un peu sexuel, alors c'est lui qui la recouvre de caresses, ou elle est recouverte de caresses de l'amant. Enfin, il l'embrassa, enfin, elle l'accueillit, il lui donna du plaisir.
Elle atteignit le septième ciel.
Mais, ce qui est drôle aussi quand même, c'est que tout ça, c'est expédié en général en une ou deux phrases. Enfin, alors qu'on a passé des pages et des pages à nous raconter comment ils se sont rencontrés, à être excités par ça, finalement l'acte sexuel il n'est pas très important. Il est expédié rapidement. Mais effectivement il est sexiste, mais aussi il n'est pas très important, c'est pas le plus important.
Ouais, il n'est pas que sexiste, quoi. Non seulement il est énormément sexiste parce qu'elle est l'actrice de rien, et donc ça renvoie quand même, ça saute aux yeux cette image de la femme soumise et tout ça, mais c'est aussi à l'imaginaire du viol comme fantasme, quoi. Et ça ça c'est horrible, quoi. C'est vraiment ce mécanisme érotique de céder, quoi. Là, au départ elle veut pas, quoi. Au départ elle veut pas, mais il est plus fort que tout, il est plus beau que l'océan, et elle cède, quoi. Elle cède et forcément elle cède, et quand elle cède, non mais c'est l'extase, elle jouit tout de suite, enfin c'est impressionnant, tout de suite c'est le septième ciel. Il y a énormément de références à Dieu, quoi. Ça fait un peu le coït comme un tour de force édulcoré, quoi. Wouhou. Et c'est assez lourd, enfin. Que dire d'autre que c'est vraiment Harlequin, c'est vraiment un truc qui véhicule énormément de stéréotypes, que c'est un truc qui est beaucoup lu et que du coup c'est intéressant peut-être de d'y jeter un œil et de se rendre compte qu'est-ce que c'est que cette littérature qui existe depuis longtemps et qui existe encore et qui est vraiment beaucoup lu et qui participe aussi à la diffusion du sexisme encore et encore et à faire que ce monde patriarcal, hyper sévère, capitaliste, prout, machin. Et juste un petit truc sur lequel je voulais revenir, c'est qu'effectivement, après ce moment sexuel où l'homme est dans le fantasme du viol, donc a été macho, la pousse un peu et tout ça, machin, tout de suite après l'acte sexuel, il est reconnaissant quand même. Ça veut dire qu'il redevient maternel, qu'il est assez adorable, doux et tout ça. Donc c'est quand même encore un truc où... Enfin, il est toujours...
C'est quand même une littérature qui est là pour détendre. C'est pas une littérature qui est là pour rappeler aux femmes leurs conditions, quoi. De toute façon, c'est une littérature. Ce sont des livres qui sont vraiment là pour le rêve, quoi. Enfin, mais bien sûr qui véhiculent tout ce que tu viens de dire. Mais c'est vraiment des livres qui sont là pour le rêve, qui sont là pour faire rêver. Et c'est aussi pour ça que l'acte sexuel il prend peu de place, parce que c'est pas ça que, évidemment les femmes ne sont pas sexuelles, vous le savez bien. Et c'est pour ça que ça prend pas beaucoup de place.
Non, elles sont très sexuelles.
Elles le sont trop.
C'est ça, soit pas assez, soit trop. D'ailleurs, on voit bien la différence avec une presse pour les hommes qui est genre SAS ou qui est un peu l'équivalent, où là, par contre, les scènes sexuelles sont extrêmement abondantes, avec des femmes ouais, décrite avec des femmes qui aiment trop le sexe, qui sont clairement des salopes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative, que ça soit dans la presse féminine, enfin, dans ces livres féminins ou masculins. Les femmes ne sont pas désirantes et avec une sexualité assumée. Et moi, ce que je voulais préciser ça par rapport au fantasme du viol, entre guillemets, c'est-à-dire que beaucoup de femmes qui lisent ça, eh bien, en fait, c'est... elles peuvent s'identifier d'autant plus facilement qu'il y a une construction de dire les femmes ne vont pas être elles-mêmes désirantes, assumer leurs désirs, être créatrices de leurs désirs. C'est les hommes qui vont les faire jouir et en plus contre, presque contre leur volonté, parce que quand même leur volonté ne peut pas être de jouir elles-mêmes. C'est vraiment le truc où elles cèdent, quoi.
Donc là, c'était une petite brève sur Arlequin, des bouquins comme ça. Je pense qu'il en existe plein d'autres et tout ça. Mais alors là, si vous avez envie de vous pencher un peu sur cette littérature, ce qui peut être intéressant pour je ne sais quoi, je ne sais quelle étude, il y a Annie Couëlle qui a fait une étude particulièrement sur les Arlequins et les romans d'amour. Ça s'appelle Le roman d'amour et sa lectrice. Et je pense que Annie Couëlle, ou elle, ça s'écrit H-O-U-E-L. Et je pense qu'il y a possibilité de trouver ça sur Internet. On va écouter un morceau. On vient d'écouter un morceau de ESG. Voilà.
Ouais, alors, durant cette émission sur Dégenré, on a parlé de sexisme et médias. Et on a bien vu que dans toute la presse, il y a un fort, fort sexisme qui est diffusé. Et alors moi, à chaque fois que je me retrouve face aux mass-médias, je me demande comment ça se fait, quoi. Comment ça se fait que ça soit aussi sexiste? Et quels intérêts les mass-médias ont à véhiculer un tel sexisme et quelles sont les conséquences, en fait, aussi. Alors voilà, moi déjà, j'ai réfléchi à quelques raisons pour lesquelles les mass-médias sont aussi sexistes. Et puis après, on parlera un peu des intérêts qu'a une société capitaliste, inégalitaire, hiérarchisée, patriarcale, en fait, aussi, à véhiculer cette idéologie-là, quoi. Alors pourquoi ils sont aussi sexistes? Il y a déjà une chose qu'on a dit, c'est que les médias sont dans des logiques marchandes. C'est-à-dire qu'ils s'appuient beaucoup sur des stéréotypes, sur l'accroissement de l'identité, comme dans la publicité. Et puis il y a une forte idéologie de la consommation, de la réussite, de la compétition, qui met les gens, enfin, les gens dans des modèles assez stricts, et les hommes et les femmes dans des stéréotypes hein, très forts. Et alors moi je me demandais aussi, est-ce que les journalistes, les rédacteurs en chef sont conscients de véhiculer un tel sexisme? Alors je pense que d'une part non, c'est-à-dire qu'on est tellement baigné dans un monde où on considère les hommes et les femmes comme si c'était deux races, quoi, deux espèces qui n'avaient pas du tout les mêmes façons de voir les choses, que bien sûr ils véhiculent ça peut-être d'une certaine manière sans s'en rendre compte. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'information qui est produite, c'est aussi le reflet de la structure, de la façon dont sont structurées ces entreprises de mass médias. Or, les mass médias sont extrêmement dominés par les hommes. C'est parmi les industries où les hommes sont les plus dominants, c'est-à-dire où les rôles féminins et masculins sont les plus stéréotypés et où il est le plus difficile pour les femmes d'accéder à des positions de pouvoir. C'est à peu près comme au niveau du gouvernement ou au niveau de la recherche, c'est-à-dire dans toutes les institutions de pouvoir, c'est très très dur pour les femmes d'accéder à des postes de pouvoir en fait. Je pense qu'en France, il doit y avoir 6% de directrices et 94% de directeurs. Et dans les médias, il doit y avoir, j'avais lu, 3 ou 4% de directrices. C'est encore inférieur au taux national dans toutes les institutions, quoi. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de rédacteurs en chef et les rédactrices en chef sont extrêmement rares. C'est-à-dire les femmes qui sont à des postes décisionnels. Et alors, même si les rédacteurs en chef ne sont pas forcément conscients d'imposer une information sexiste parce que juste ils baignent dedans et que c'est normal, enfin, je pense que ce qui est conscient par contre, c'est qu'on bloque les informations qui remettent en cause ces stéréotypes sexistes. C'est-à-dire que tout ce qui est, par exemple, action militante féministe, tout ce qui est article de fond aussi, j'avais lu ça chez Christine Delphi, qui avait des articles qui expliquaient pourquoi ou comment se reproduit le patriarcat, quels sont les mécanismes qui permettent aux femmes de comprendre dans quelle situation d'inégalité elles sont. Même tous ces articles-là sont complètement enlevés. D'ailleurs, la plupart des articles sur les femmes sont écrits par des hommes. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça. Du coup, on voit que finalement, les rédacteurs en chef ne font pas passer les informations qui bousculent les privilèges des hommes et qui remettent en cause l'ordre en place. Quoi.
Ouais, qui pourraient opérer des changements sociaux, quoi, clair.
Ouais,
enfin,
voilà.
C'est aussi la peur de ça.
Et alors que ça pourrait plaire à un public en plus, parce que par exemple savoir que les hommes et les femmes ont le même cerveau exactement, ça plairait à beaucoup de gens, sauf que c'est une information qui n'est jamais diffusée, jamais jamais. Du coup, là on peut dire oui, ils sont responsables et conscients de ce qu'ils font quand ils bloquent cette information qui arrive dans les agences de presse, quoi. Et alors quel intérêt ça a vis-à-vis d'une société capitaliste, par exemple, parce que comme on a vu que les mass médias ce sont des productions capitalistes, hein, d'entreprises qui sont d'ailleurs florissantes. Oui, eh bien, il y a un intérêt économique déjà énorme à maintenir le sexisme. Parce que grâce au sexisme, on peut exploiter toute une population et de façon relativement silencieuse. Et cette population, c'est les femmes. C'est la population dont le travail est le plus exploité en France aujourd'hui. Hein, c'est plus que les immigrés, etc. C'est-à-dire que c'est la population qui a les moins bons salaires, qui bénéficient de la moins bonne ascension sociale, c'est-à-dire qu'il y a 23%, les femmes sont payées 23% moins que les hommes à diplôme égal, l'ascension sociale, il n'y en a presque pas, on a vu, il y a 6% de directrices, elles sont beaucoup plus touchées par le chômage. Et en plus, le fait qu'on dise que c'est pas vraiment un groupe social, mais c'est comme une moitié de l'humanité, une espèce qui a des caractéristiques innées, naturelles, ça les divise, c'est-à-dire qu'elles ne se considèrent même pas comme un groupe social à défendre. J'ai vu en Suède, là, il y avait des femmes qui ont dit « Voilà, on est payé 23% en moins, et ben on va travailler 23% de temps en moins. » Ça, voilà, ça c'est ça, il y a une conscience de groupe social, alors qu'en France, avec le sexisme qu'il y a, les femmes se rendent compte, mais ne se considèrent pas comme un groupe social exploité, quoi. Et ça, c'est grâce à toutes ces idées qui feraient qu'on aurait moins envie de travailler, ou je ne sais pas quoi.
Ça me fait penser à des articles, alors je reviens sur la presse féminine, c'est un peu mon obsession, c'est que dans Elle, je le dis super vite, dans Elle, moi j'ai déjà vu souvent des articles sur comment bien vivre à son travail, comment surmonter le stress à son travail, comment supporter votre chef de bureau, enfin comment rester calme face à votre chef de bureau qui est affreux, et c'est vraiment ça quoi, c'est comment, mais c'est pas comment
Comment lutter,
comment
quoi.
Lutter contre, comment vous rebeller, hein, c'est comment bien le vivre, calmez-vous, alors ça dit respirez à fond, buvez beaucoup d'eau, enfin bon, mais
oui, puis...
ne gueulez surtout pas sur votre patron, quoi.
Comment associer sa vie de famille et sa vie de travail, c'est pas en demandant à votre conjoint d'en faire autant à la maison que vous, quoi. C'est vous allez y arriver, faites un petit planning, voilà, mais c'est toujours, faites toujours vos 80% de tâches domestiques, quoi. Ça ne change pas. Alors, il y a aussi, pour moi, toute cette information aussi qui est absolument pas rationnelle, parce que clairement, quand on parle des sexes, on pourrait parler des extraterrestres, c'est pareil. Et ben, pour moi, c'est aussi une manière de faire en sorte qu'on coupe en fait, un rapport rationnel au monde, qu'on ne pense pas nos relations aux autres, même dans la sphère familiale, comme des relations politiques qui peuvent être inégalitaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une réflexion. On est là, oui, ben, c'est la nature qui veut ça, c'est vaguement, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, il n'y a pas de raison. On n'est pas du tout dans un rapport rationnel au monde. Et ça, c'est un peu tous les mass-médias qui font ça, c'est-à-dire qu'ils nous envoient énormément d'informations.
Nous bombardent
d'informations, mais c'est jamais des informations qui ont des causes. Les phénomènes sociaux arrivent comme ça, les voitures brûlent, il n'y a pas de raison. C'est comme ça, ça nous tombe dessus. Ah oui, mais c'est parce que ils auraient une nature, ce seraient des jeunes qui par une génétique étonnante, seraient poussés à brûler des voitures. Enfin bref, on n'est pas du tout dans une analyse politique et encore moins de son quotidien, quoi. On est vraiment dans la distinction public-privé, en plus, qui met bien la sphère privée de côté, comme ça, on n'analyse pas du tout nos relations comme inégalitaires ou pas, quoi. Et puis aussi, toute cette idéologie naturaliste, ça a comme effet de maintenir cette idée, qui est quand même assez typique de notre société, c'est de faire croire que la domination, l'instillerait un instinct de domination parmi l'espèce humaine, et que lutter contre les rapports inégalitaires, ce serait vraiment une utopie, parce que, quand même, l'être humain est fondamentalement mauvais, les hommes veulent dominer les hommes, et les hommes veulent dominer les femmes, c'est dans leur nature, ils auraient des pulsions comme ça. Et bien ça entraîne le fait que beaucoup de gens ne remettent pas en cause des hiérarchies. C'est vraiment une idéologie de la soumission. Mais à quoi ça sert de lutter? Voyons, la nature humaine est mauvaise. Les hommes, de toute façon, seraient plus forts. Enfin bref, c'est assez dramatique, quoi. Et puis, l'autre effet de véhiculer une idéologie sexiste, enfin, c'est de diviser la population. C'est-à-dire de former les hommes à rentrer en concurrence avec les autres hommes. Et de dire aussi aux hommes qui sont en bas de la hiérarchie sociale, « Ouais, mais vous dominez quand même un petit peu. » C'est-à-dire que le mec il va se faire exploiter toute la journée par son patron... Quand il arrive chez lui, il dit « Ouais, mais c'est moi le mec, chez moi, c'est moi le chef. » Enfin, moi, j'avais des amis ou des compagnons comme ça, quoi, hein, qui disaient ça. Et aussi le fait que les femmes soient exploitées, qu'elles travaillent énormément, c'est-à-dire au niveau à la fois dans le boulot, mais à la fois quand elles rentrent, elles ont encore vachement de tâches domestiques à faire. Ça a comme conséquence qu'elles ont peu de temps pour s'informer, et peu de temps pour s'engager politiquement. Et aussi d'éduquer la moitié de la population à la soumission, ça fait qu'il y a quand même une bonne moitié de la population qui est vachement moins dangereuse, quoi. Et du coup, ça c'est aussi dramatique du point de vue de la remise en cause de l'ordre social globalement. Alors voilà, moi en conclusion, ce que je veux dire, c'est que les mass médias véhiculent l'idéologie sexiste, que ça soit volontaire ou non, que ça soit conscient ou non. Parfois c'est conscient aussi, hein, parce qu'il faut bien voir que les dirigeants... sont aussi des grands connaisseurs de l'histoire sociale et des mouvements sociaux. Ils savent très bien ce que c'est le sexisme, hein, c'est pas des idiots. Et ben en fait, cette idéologie naturaliste qui est véhiculée, en fait, elle a comme conséquence de faire en sorte de diviser les gens, qu'il n'y a pas de recherche de remettre en cause des modèles relationnels qu'on a, s'il n'y a pas de relais des luttes sociales qu'il y a non plus... Bref, en gros, ça permet le maintien, la perpétuation d'un système politique qui est à la fois capitaliste et patriarcal. Et les deux se nourrissent l'un de l'autre, quoi, vraiment. Hein. Faut bien voir ça. Alors voilà, on vous propose une petite plage musicale et après quelques infos sur l'actualité grenobloise.
Il pleut dans vite que le vent. Marcher, marcher à pas de géant. Attends-moi. Montons dans les arbres, montons dans les arbres pour attirer les éclairs. Montons dans les arbres, montons dans les arbres pour y voir un peu plus clair. Mon genou est écorché, des fougères dans les cheveux. Nous ne savons plus parler. J'ai de la boue noire plein le nez. Allons-nous. Je suis fatiguée.
On vient d'écouter une chanson d'Harold. Et encore une fois, c'était pas celle qu'on voulait, mais c'est pas grave.
C'était bien quand même. Alors maintenant, on vous propose d'écouter un peu quelques infos qu'on a. Et alors en ce moment, il y a une mobilisation qui concerne aussi les femmes. Et là, il s'agit de femmes au Burkina Faso qui étaient des ouvrières d'une usine qui s'appelait La Gastilienne et qui était une filiale d'Yves Rocher. Donc vous connaissez certainement tous et toutes Yves Rocher, le grand groupe de cosmétiques qui vend
naturel.
Des produits naturels, qui vend des produits pour les femmes. Et donc il y a 133 ouvrières au Burkina Faso qui, après avoir travaillé pendant 9 ans dans des conditions évidemment plus que précaires, ont été brutalement licenciées le 1er août dernier. Et depuis cette date, elles luttent pour obtenir le respect de leurs droits, parce qu'évidemment, elles n'ont eu droit à aucune indemnité après avoir été licenciées brutalement par Yves Rocher. Alors, il faut savoir, Yves Rocher, voilà, c'est le leader mondial de la cosmétologie. Alors, moi, j'avais envie de vous lire un des slogans de Yves Rocher. Un groupe et des marques unis pour une même passion, rendre le quotidien de la femme plus agréable. En licenciant 133. Alors voilà, il y a un mouvement de soutien à ces femmes qui s'est monté. On peut écrire des lettres à Yves Rocher pour dire que ça craint d'avoir licencié comme ça autant de femmes. Je le dis vite fait. Hein. Et voilà, les femmes là-bas, elles se battent pour obtenir au moins une indemnité. Je crois que ce qu'ils lui proposent, c'est rien du tout. C'est 70 euros d'indemnité. Ce qui n'est pas grand-chose. Hein. Du coup, voilà, il y a cette mobilisation en ce moment qui se trouve... voilà. Donc, vous pouvez écrire une lettre, Yves Rocher.
Et vous pouvez aller voir ces gens-là pour leur dire ce que vous en pensez. Voilà, il y a eu des rassemblements, il y en aura sûrement encore devant les magasins Yves Rocher, puis sur les places, voilà, c'est quand même...
On en trouve partout, des magasins comme ça, il ne faut pas hésiter à y aller et foutre un peu le bordel. Et sinon, pour continuer dans les informations, maintenant le troisième jeudi de chaque mois, il y a une émission qui s'appelle l'émission Indie Média. Donc aujourd'hui, on a parlé des médias et du sexisme. Et Indie Média, c'est un média alternatif. Et je pense que c'est intéressant d'aller écouter ce qui s'y dit ou aussi d'aller voir sur le site internet. Donc c'est à 20h. Non, c'est de 19 à 20h. Et donc c'est les troisièmes jeudis de chaque mois et c'est rediffusé le dimanche à 15h.
Voilà, demain soir, on va enfin avoir un autre écho, je pense, de l'actualité en ce moment, de ce qui se passe en Italie, parce qu'il y a un peu des actions en ce moment extrêmement importantes en Italie dont on n'entend jamais parler. Aussi, peut-être une autre lecture des émeutes, peut-être ce qui s'est passé dans les banlieues récemment. Enfin bref, toutes ces choses intéressantes, c'est demain soir. Hein, moi, je vais écouter ça. Parce que Radio Kaléidoscope n'est pas un mass-média, parce qu'il n'est pas financé par l'industrie capitaliste. Et ça se voit, parce que nous, on peut passer sur ce genre de radio. Quoi.
Et l'émission qui est en alternance avec des genrés, c'est toujours Les murs ont des oreilles, l'émission anticarcérale.
Ben voilà, hein, presque on a fini. Toujours un kiff-cœur à Kaléidoscope, parce qu'on aime bien être là et on est bien là. Et maintenant, on va écouter une chanson... Attends,
non, il y a demain soir.
Il y a demain soir, oui,
demain
oui.
Demain soir, il y a aussi quelque chose. C'est à 20h au 102. Il y a une soirée de soutien pour des gens qui ont cassé des appareils biométriques. Alors en ce moment, Ouais, de gens de Paris, de lycéens et d'autres gens. Il y a pas mal de gens qui se mobilisent en ce moment contre la biométrie, c'est-à-dire faire en sorte de ficher les gens pour pouvoir les suivre partout, de toutes les manières. Et nous, on trouve... Enfin, on soutient ce genre d'action et demain, il y a des projections à la fois du coup de films qui vont informer sur ce qui se passe en ce moment, sur les conséquences politiques que ça a, ce genre de pratique de mettre
de contrôle social.
Voilà, de contrôle social. Et du coup, on pourra soutenir parce qu'il y a ces gens qui ont cassé des appareils biométriques sont en procès et il faut financer ce procès et potentiellement les amendes qu'ils vont avoir. Voilà, c'est demain soir au 102 rue d'Alembert.
Et donc, c'est des projections, c'est ça ?
Ouais, c'est des projections.
Et un débat, je crois, aussi, un peu.
Et la prochaine émission Dégenrée, c'est donc en plein, entre Noël et le Nouvel An. Je ne sais plus exactement le combien c'est, mais c'est dans 15 jours. Hein. C'est le 28 décembre. Et ce sera une émission surprise, un cadeau pour Noël.
Et donc, on écoute un morceau de Cat Power avant, avant d'aller manger.
Bonne soirée.